après le décès de sa mère, à qui Ed voue autant d'amour que de haine, il décide de sceller la chambre et de vivre dans la cuisine, principalement dans la cuisine.
Si ça se trouve, vous l'avez déjà expliqué, mais pourquoi on est ici exactement ?
Vous êtes ici parce que vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs.
Simply the best, down, 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 down.
Bonjour à tous et bienvenue dans le meilleur podcast, le podcast où on parle des meilleures choses avec les meilleurs invités. Je m'appelle Cyrus.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du meilleur podcast. Aujourd'hui, on va se faire peur. On va aller chercher les frissons.
Oh.
On va se raconter des histoires qui font peur. On va parler ensemble de la meilleure histoire qui fait flipper. Je suis Tom.
Et on est très bien entouré, Tom, pour en parler. Ah, il va pas aimer que je dise ça parce que apparemment.
Il le dit à chaque fois.
Voilà, il dit que je.
On est bien entouré à chaque fois.
Mais on est bien.
Quel entourage.
Je te dis, c'est la vérité, quoi.
C'est vrai.
Tu vois,
c'est vrai.
Là, voilà, on allait trouver les meilleurs conteurs pour ce type d'histoire, quoi.
C'est vrai.
À ma gauche.
À ta gauche.
Clara.
Parce que les gens ne voient pas du tout, mais.
Très visuel de donner des directions.
Oui.
Bah ouais, mais comme ça, les gens, si jamais ils ont besoin de se
à
repérer dans l'espace.
Okay.
Il est midi 54 d'ailleurs. Il est... Ah, 10h10. Ah, c'était une, ouais. C'était une orientation.
Compliqué.
D'accord,
ah,
ok, j'avais pas capté que 10h10.
C'était la première vanne de ce podcast. Yes.
Elle était hyper drôle.
Le 10h10
Ouais.
Ouais.
Bah, je rentre chez moi. C'est pour ça que vous m'invitez les moments où on rigole pas, les moments où on fait peur, tu vois. Parce que vraiment, sur l'humour, c'est pas ça.
Bah, moi, je suis sûr que tu vas nous surprendre ce soir.
Ok.
Ce soir
à midi 54.
Chut, Clara, merci d'être là.
Mais merci de m'avoir proposé de venir. Je suis très contente, je vous écoute. Donc, du coup, tu vois, il y a un truc où. Je sais pas si vous avez pas tous cette impression quand on écoute des podcasts, comme en fait on se connaît tous un peu. Moi, j'ai toujours cette frustration de pas pouvoir répondre.
Je
vois. Et donc là, je suis tellement contente d'être là pour pouvoir vous dire quand vous avez tort.
aïe.
Bah, ça nous fait plaisir tout de même, ce compliment sucré-salé. Finalement, fait quand même plaisir.
Est-ce que tu veux te présenter pour les gens qui te connaissent pas ?
Avec plaisir. Alors, je suppose que la raison pour laquelle vous m'avez fait venir, c'est parce que aux nuits originelles, en général, en compagnie de l'ami Boulet, je vous raconte des histoires qui font peur à minuit. En prenant cette voix-là, que je vais beaucoup prendre aujourd'hui. Donc voilà, et à côté, l'année dernière, j'avais un podcast chez Binge Audio qui s'appelait Besoin de rien, envie de droit, qui est toujours disponible, et c'est de la vulgarisation juridique avec des questions à la con et du contenu sérieux, du genre, est-ce que j'ai le droit de manger mon chat ?
Est-ce que je peux appeler mon enfant Gandalf ?
Ouais, mon préféré. qui, mine de rien, est un podcast sur les fake news. Donc voilà, et sinon, à plein temps, mon vrai métier de la vie civile, c'est que je suis avocate.
Que de cordes à cet arc.
Ouais,
exactement, exactement. On mettra tous les liens évidemment en description.
Absolument.
Et je rappelle une fois encore que tout ce qu'on raconte, voilà, on est.
Et couvert par la confidentialité.
Alors c'est pas ça que j'allais dire.
Parce qu'il y a des gens quand même qui écoutent, mais.
Ce que j'allais dire, c'est que parfois on fait des erreurs, c'est possible. On est dans un podcast de conversation et donc on ne vérifie pas tout ce qu'on dit sur le moment. Et donc voilà, si jamais ça arrive, on est vraiment désolé pour ça. Comment ça va, Alt 236 ?
Bah moi, ça va super bien, et vous ?
Super, on est très content que tu sois là une nouvelle fois.
Bah ouais, j'avais eu le plaisir de venir pour le meilleur méchant, si je me souviens
le
bien.
Le meilleur monstre.
Oui, oui. Bon, ça va souvent ensemble. Mais
ouais, c'est le meilleur méchant, on l'a fait aussi.
Oui.
C'est peut-être pour ça que tu as confondu.
D'accord, meilleur monstre. Et oui, et j'étais déçu parce que j'avais défendu Freddy Krueger et toi, t'avais défendu le diable. Et en fait, il avait raison.
Ouais.
Ça,
mais
mes messes sataniques qui sont venues après, j'ai fait oui, il a raison.
Finalement, le diable, c'est pas mal.
Comment ?
Non, mais c'est l'épisode d'Halloween, faire un effort.
Ok, messe satanique, très bien.
Alt, pour les gens qui ne te connaissent pas, que fais-tu ? Qui es-tu ? Toi qu'on appelle entre nous le maître des ténèbres, finalement.
Eh bien, écoute, je suis youtubeur vidéaste. Hein, vous choisissez voilà, les deux côtés de la pièce. Mais donc, je fais des vidéos sur YouTube et ça parle principalement des images étranges. J'essaye de mettre en commun des tableaux et des films d'horreur, des histoires, des mythologies. Et je m'intéresse beaucoup à ce qu'il y a dans la tête aussi des créatrices et des créateurs, qui nous proposent des choses souvent déroutantes, mais j'aime bien emprunter cette déroute et essayer d'y voir plus clair, de partager ma passion autour de ça à travers des vidéos. Et voilà.
Très intéressant, très intéressant. Voilà, non, je pensais.
C'est tout quoi.
J'avais pensé à une vanne avec. T'es dérouté. T'es qui déroute. J'avais pensé à Beyrouth. Et je me suis dit, s'il n'y a pas un truc à faire.
Ça déroute comme au Liban, quoi. Un truc comme
ouais,
ça.
Voilà,
ouais, c'était bien de ne pas la faire, je pense, finalement. Ouais.
Et finalement, du coup, on ne va pas la faire. Par contre, Tom, il en a des vannes. Il en a dans
ça,
sa besace.
Alors là.
Parce que c'est l'heure de son édito. C'est l'heure de Lady Tom.
Halloween, c'est quand même une tradition un peu bizarre. Déjà parce que c'est un soir pendant lequel on envoie plein d'enfants se rendre directement chez des inconnus pour leur demander des bonbons. Hein. Halloween, c'est ni plus ni moins que le Deliveroo des pédophiles. Plus besoin de se faire chier à louer une camionnette blanche ou à se taper 8 ans de séminaire eucharistique pour devenir un délinquant sexuel détraqué, un paquet de lutis, une citrouille mataillée, et le tour est joué. Mais Halloween, avant d'être la fête préférée de Michel Fourniret, c'est surtout une fête américaine. Hein. Oui, comme pas mal de trucs américains qu'on essaye de refaire chez nous, ben Halloween chez nous, c'est complètement claqué au sol. Parce que regardez, les ricains, ils ont les pop-up girls, nous on a quoi? Les majorettes. Ils ont en manx, on a tiré l'ermite. Vous parlez de The Office, on je réponds caméra café. Quand tu regardes Halloween en France, ça manque de classe quoi. T'as l'impression d'observer un rayon Jiffy géant, le mauvais goût est partout et il suffit de regarder les déguisements qu'on peut acheter en ligne. La recette est hyper simple. Il suffit de prendre n'importe quel personnage ou métier et tu y ajoutes juste le mot sexy, ça fait un déguisement. Ça fait un déguisement. Sorcière sexy, militaire sexy, zombie sexy, probablement conseiller municipal de Levallois-Perret sexy si on fouille un peu, hein, parce que oui, un déguisement d'Halloween, ça sert pas juste à faire rire ou à faire peur. Non, non, ça sert aussi à aborder des grandes thématiques et lancer des débats de fond. La preuve avec ce déguisement que j'ai trouvé, qui est vendu sur le site déguise-toi.fr. Hein,
déguisement... Ah, ça me donne des ordres en plus.
Ouais.
déguise-toi... déguise-toi-enculé.fr.
Le site qui met la pression. Donc c'est un déguisement qui, je cite, est un déguisement de dictateur coréen qui est vendu avec sa fausse grenade militaire et sa mitraillette sulfateuse et qui est présenté dans sa description comme un déguisement qui serait parfait pour, je cite, ouvrir le débat lors de soirées sur le thème des hommes politiques ou du carnaval. Hein. Donc, moralité, pendant votre soirée d'Halloween, n'hésitez pas à aborder le thème de la PMA avec ce mec déguisé en curé sexy, car c'est clairement pour ça qu'il a dû le mettre. Enfin bref, voilà, tout ça ce n'est que mon avis sur Halloween et du coup j'aimerais bien avoir le vote, chers invités. C'est quoi le Halloween idéal pour vous, Clara?
Alors, moi j'aime bien les films d'horreur où on se marre. Genre Tucker and Dale Fight le Mal, genre merde, tu vois, ça commence hyper bien. Le film de zombies.
Zombieland. Zombieland.
Alors je pensais pas à Zombieland mais je vais y arriver. Shaun of the Dead.
Yes.
Genre Shaun of the Dead. Donc j'aime bien les films d'horreur où on se marre parce que je trouve que à mater avec des potes avec des pizzas, c'est vraiment beaucoup plus sympa que le vrai film d'horreur qui fait vraiment peur, qui a besoin d'être maté à deux maximum ou dans une salle noire où si jamais tu parles, tout le monde te fait chut. Parce que ça marche pas sinon.
Je comprends.
Ça ne marche pas. Donc pour moi Halloween idéal c'est genre plein de saloperies à bouffer et des films d'horreur où on rigole.
Ok, c'est vrai que c'est un programme assez alléchant. C'est un
beau programme.
Alt, est-ce que pour toi, t'as la même vision d'un Halloween parfait?
Moi, les amis, l'Halloween idéal, j'ai déjà fait.
Voilà. Allez,
allez.
Alors déjà, Halloween, c'est ma fête, c'est le jour de la Saint, mon nom, quoi. Donc voilà, c'est déjà, tu vois, de base, c'est inscrit dans mon ADN,
c'est
amour
des démons. C'est comme dissimulation, du coup.
Ouais. J'avoue.
J'avoue.
Vous pouvez retrouver mon prénom.
Je vais pas vous dire mon prénom, mais la Saint, c'est le 31 octobre.
Okay. Non, mais c'est le jour d'Halloween, tu vois. C'est...
Bien sûr.
Donc tu t'appelles Halloween, c'est ça?
Exactement.
Ok, super.
Mais alors, du coup, on laisse ça?
Non. Oui, bah oui, tu laisses tout, je m'en fous. Okay. Les gens feront leur enquête. du coup,
détective.
Détective de ouf.
Et redonnera une fausse piste sur un autre prénom en montant l'émission pour.
Non, ce que je vais vous raconter.
Halloween,
est beaucoup
c'est le 30
drôle.
Octobre, on est d'accord?
Oui, absolument.
Non, c'était une soirée, ce qu'on appelle une cat-Halloween. Donc, c'est une soirée Halloween dans les catacombes de Paris.
Oh.
Et donc, on était rentré par une plaque à Tolbiac. Donc, tu descends dans des échelles.
Une gouttière, on appelle ça, non?
Ouais, j'ai pas trop le vocabulaire, mais probablement, oui, il y a un truc comme ça.
Mais
tu descends.
Pas
cataphile. Pas
cataphile, non. Cataphile.
Et du coup on descend tout en bas et on a fait une soirée de dingue, ils avaient branché de la musique, tout le monde était déguisé et il y avait plein de drogues cheloues. Donc, et puis au bout de 5 heures il y avait tellement plus d'air dans l'endroit où on était que pour allumer un briquet il fallait se mettre au sol. C'est ce genre de soirée
où t'as un peu peur de mourir.
Ouais,
ce genre de soirée.
À 5h du mat, bon bah toi t'as fait le tour de la soirée, t'as bu un peu de vodka et tout, et tu dis bah on aimerait bien rentrer. Et puis les cataphiles, eux ils restent jusqu'à 11h du mat, et là ils font ouais, c'est par là, gars. Tu vois, et en fait tu te perds pendant une demi-heure.
J'ai vu ce film.
Ouais, et en fait, bon, on a retrouvé, mais c'est vraiment une des rares fois où je me suis dit waouh, je pourrais crever. Là comme ça et tout le monde.
Mais t'es rentré tout seul, t'es
reparti. On était
soirée.
Deux trois potes, mais
la
on connaissait pas nous, on n'était pas des cataphiles du tout, on était faisait partie des touristes si tu veux, et le cataphile n'aime pas le touriste.
Non.
Donc du coup le mec qui nous a dit par là il se foutait un peu de nous en fait quoi. Et on l'a compris grâce à d'autres gens qu'on a croisés, mais on a flippé quoi. Mais par contre la soirée était géniale.
Oh, c'est ouf.
On était sous Paris dans des boyaux de dingue, c'était mortel.
Ah, okay. J'ai envie de faire ça maintenant.
Bah, ça se fait tous les ans, il doit y en avoir une, faut trouver le bon réseau.
Okay. Bref, faut avoir les contacts chez les cataphiles, c'est pas si simple,
exactement.
Paraît-il. Du coup on reste un peu dans la thématique d'Halloween.
Ah, tu me demandes pas Tom?
Ah si, c'est vrai, j'avais oublié. Tiens.
Ok, oh, bah, j'avais... un peu surpris.
Bah, t'es comme un meuble, hein, tu sais, ici maintenant Sirius. Tu te manifestes sinon
mais un meuble Ikea, un meuble cool mais
ouais, un meuble sympa.
Pourtant j'ai mis mon pull Anne Romanoff, je suis un peu surpris.
Ouais, c'est vrai que c'était mon crush. Désolé, mon petit Cyrus, bien sûr, c'est quoi pour toi un Halloween idéal?
En plus, il m'infantilise, putain, super, ça commence bien.
Ah non, c'est juste pour la taille, pas par rapport à.
Yes, ok.
Nickel, fait plaisir.
Alors, moi, ma soirée Halloween idéale, je l'ai touchée du doigt, je sais pas si je l'ai vécue, mais c'était quand on était gosse, quand on était au collège. On était plusieurs allés dans la maison d'une pote, et en fait, on était tous. On prenait le truc hyper au sérieux, on se déguisait tous à fond, etc. Et on allait de maison en maison demander juste des bonbons, quoi. C'est-à-dire que le vrai truc d'Halloween, en fait, que finalement peu de gens font.
Tu vois, c'était il y a longtemps, c'était il y a 10-15 ans, quoi.
Ouais.
Donc c'était assez en avance quand même, c'était pas trop répandu.
Non, non, c'était pas trop répandu, et tu vois, genre c'était en banlieue. Et donc les gens avaient des maisons et donc on allait, on toquait, on fait des bonbons ou la mort. Ah,
eh ben, la mort.
C'est trop mignon. Attendez, je vais voir si j'ai des bonbons. Ah bah y a intérêt, sinon on va vous buter, madame.
Tiens, voilà du pain de mie.
Et non, et du coup c'était trop de la balle de faire ça entre potes, etc. Et de, c'était vraiment un des rares moments où j'ai eu l'impression de vraiment faire une tradition, genre bien comme il faut. Et c'était de la balle, franchement.
Il y a eu un début de hype. Il y a genre, j'ai l'impression quand on avait genre 10 piges. Pardon, je me tourne vers les autres. Mais genre, donc du coup.
Tu tournes vers moi,
oui,
pas
surtout
vers les autres. J'hallucine.
Non, mais donc vers 2000, tu vois, il y a eu un peu un début de hype vers 2000 où les gens se sont mis à essayer de faire un peu ça et à aller chercher des bonbons chez les voisins, quoi.
Bah, moi, je me rappelle aussi, c'est à cette époque-là où j'avais des déguisements pas ouf. Ma mère m'a amené dans ces zones périurbaines, dans des lotissements où tous les enfants passaient à peu près aux mêmes maisons. Mais c'était cool.
Mais d'ailleurs,
je sentais faire part d'un truc quand même.
Toi, cool. Elle appelait ça des vêtements d'ailleurs. Non.
Yes. Bonne blague. Hein, non, ça,
en
c'est...
vrai, il y a un côté American Holiday, tu vois, ce côté truc que t'as vu dans les films, que toi aussi t'as envie de
oui,
vivre.
Oui, t'as envie de le faire, bien sûr.
Parce que la Toussaint, c'est moins drôle, quoi. Tu vois, y a...
On va au cimetière,
voilà.
on
va voir les morts, mais bon, oui, c'est pas ultra fun, voilà.
Mais, et après, tu vois, genre, j'ai pas vu Stranger Things, mais du peu que j'ai vu et des trailers et de l'ambiance, bah, quand on partait avec mes potes faire Halloween chez cette copine, etc., machin. J'ai cette pote, c'était pas une copine, enfin c'était une meuf, mais c'était pas ma copine, c'était une pote.
Waouh, okay. Tellement de justifications.
Ouais, c'est chelou. Non, j'étais pas amoureux d'elle pendant 6 ans, ça.
Magali,
va, okay.
J'étais pas amoureux, ok. Ouais, c'est
non,
ça,
non,
c'est
à un moment, elle était amoureuse de moi, et moi, non. C'était ça.
Tu lui passes un petit message ou pas?
Je pense qu'elle écoute pas ce podcast.
Je suis sûre que si. Si elle était amoureuse de toi à l'époque, tu sais, elle doit tout stalker, elle doit tout écouter.
Non, non, je te jure que non, je crois pas. En plus, c'était l'époque où, tu sais, genre quand t'appelais, on digresse un peu, mais c'était l'époque où quand t'appelais, tu tombais sur les parents.
C'était la pire chose.
Oui, je pourrais parler...
À Magali.
Je pourrais parler à Magali, s'il vous plaît. C'est qui? C'est Cyrus.
Non, ton vrai prénom, s'il te plaît.
Encore un pseudo internet.
Précurseur, en 2002, précurseur de ouf.
Mais grave,
On t'embrasse, en tout cas.
Bisous Magali.
Bisous Magali.
Petit, je voulais faire un petit tour de table des pronostics. Quel va être, selon vous, le déguisement d'Halloween
Easy.
2019
très
pour
facile,
vous
très
Allez, on le dit en même
on
temps.
Pas
à
droit,
trois.
On n'a pas le droit de dire
en même temps.
On le dit en même temps. 1, 2, 3.
Joker.
Benalla.
Yes. Allez, maintenant on le dit séparément, c'est parti. Cyrus.
Bah Joker.
Joker pour tous les trois.
Alexandre Benalla.
Ah, ce sera incroyable.
Joker, moi j'ai pas méga kiffé, mais je le dis tout bas parce que voilà,
non,
j'ai ma street cred.
C'est pas ça la
non,
question.
Que t'es kiffé ou pas,
bah non,
ça va être le déguisement
coup,
de.
Ah oui, bon d'accord. Donc
vous voulez le déguisement de l'année.
Vous voulez pas notre vision du monde, vous voulez une statistique, c'est ça?
Oui.
Bah oui, alors c'est Joker.
Ah bah c'est la question de Tom. Hein.
Comment
c'est
tu te déguises en Benalla? Tu mets un costard et tu mets un bracelet.
Ouais,
et
puis il faut
de
plein de bonne volonté, il faut une vision de la France. Enfin, tu vois, il faut tout un tas de trucs.
Il faut être inscrit au sport à l'Assemblée nationale,
exactement,
ce genre de truc.
Voilà.
Donc avec une petite carte.
Faut aimer le déguisement déjà pour être Alexandre Benalla. Tu sais, c'est assez méta quoi. Lui-même aimait se déguiser et tout. Enfin,
c'est vrai?
Bah ouais, tu sais, il se déguisait
en flic.
Ouais, ouais. Je sais pas si tu te souviens de son meilleur déguisement d'ailleurs, c'est son meilleur make-up, clairement.
Mais vous pensez pas que pour le Joker, ça nécessite quand même pas mal d'artifices et que du coup, on risque un peu d'être
moche,
limité?
C'est du make-up
bah, pas
blanc
celui-là,
sur la gueule,
non, pas celui-là, tu vois. Encore, il était dur de faire Nicholson avec le... Là, tu mets un costume rouge et des cheveux verts et c'est parti, quoi.
Ouais, non, non, je pense qu'il est assez facile à faire justement parce que, effectivement, les cheveux, bah, tu mets du spray.
C'est très humain, quoi.
Le maquillage, très cool à faire, etc. C'est du maquillage blanc avec machin, sourire et tout.
Et d'ailleurs, comme c'est pour... ça toute la soirée aussi.
Et tu rigoles.
Tu fais le truc avec le doigt là.
Du coup, alors les gens, j'imagine, l'ont compris, mais
je voulais que ce soit sonore d'abord. Tu vois, c'est ça que...
Les gens qui n'ont pas vu le film se demandent vraiment où tu as mis tes doigts pour faire cette phrase.
Vous le découvrirez. Là, c'est au replay.
Non, mais tu vois, le déguisement est facile à faire et c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'il est repris aussi autant dans les manifestations autour du monde, etc. Donc
alors question, vas-y. Est-ce que c'est pas le truc justement comme ça va être le déguisement d'Halloween, est-ce que c'est pas tout pété d'arriver en Joker à une soirée Halloween? Moi, je retourne le truc. Vous serez 7, il y en aura mieux que toi. Tout
alors qu'un Chirac zombie, par exemple.
Ouais, un Chirac
hyper
zombie,
stylé cette année.
Original.
Non, mais évidemment qu'il y en a qui vont penser comme ça. Mais je pense que
oui, la masse, peut-être,
la plupart des gens vont juste se dire Joker, c'est cool, je me déguise en Joker. Et j'avoue, moi, si je suis juste mon envie pure et pas mon truc du regard des autres, bah, j'ai envie de me déguiser en Joker.
Ah ouais.
Attends, j'ai kiffé le film, tu vois.
Okay. Du coup, cet épisode va être un petit peu différent des précédents. L'idée, c'est de faire un épisode un peu sur mesure pour Halloween. On va chacun, notre tour, raconter une histoire qu'on trouve flippante. Alors, ça peut être une histoire vraie. Oui, Cyrus.
Est-ce que le podcast ne serait pas en train de se déguiser pour Halloween?
Absolument.
Allez.
Il a dit sur mesure.
Oui, c'est pour ça. Ça m'avait pensé au costume.
Donc du coup, ça peut être une histoire vraie, une anecdote, ça peut être un film qu'on veut raconter, ça peut être un livre, ça peut être une expérience qu'on a vécue, ça peut être une légende urbaine ou une creepypasta. Pour les personnes
mais
qui peut-être
voilà,
ne sont pas peut-être à l'aise avec ce terme.
C'est des pâtes un peu dégueulasses.
Alors je parle sous l'égide de deux personnes qui maîtrisent probablement mieux le sujet que moi. Une creepypasta, c'est une forme de légende urbaine qui est plutôt née sur Internet et comme son nom l'indique, donc c'est un mélange entre creepy qui fait flipper et pasta qui est un détournement de copy-paste qui signifie copier-coller en anglais. C'est une légende qui va naître sur Internet et que les gens vont se réapproprier et reposter en enlevant, en modifiant les éléments, souvent racontés à la première personne pour qu'il y ait encore plus d'identification. Et voilà, c'est une histoire qui fait flipper, type légende urbaine. Tout le monde a préparé de son côté une petite histoire qui fait flipper. On va les lire à tour de rôle. Il y aura une petite ambiance, un petit peu feu de camp, je pense, qui va être ajouté au montage. Un petit truc qui crépite. Et voilà, et l'idée, c'est d'essayer de vous faire un petit peu flipper, de rendre une expérience un peu immersive dans cet épisode.
De rendre le trajet de métro des gens un peu badant, c'est ça?
Exactement, c'est le but. Clara, est-ce que tu veux commencer et nous faire part de ton histoire?
Alors, d'abord, je vais vous raconter une toute petite anecdote de mon enfance, mais c'est un tout petit truc. C'est juste qu'en fait, on vient pas aux histoires qui font peur de complètement rien. Et moi, tout ça est né en regardant trop jeune des trucs qu'il aurait pas fallu regarder, comme je pense tout le monde.
Yes.
Tu sais, genre des épisodes de X-Files le jeudi soir sur la 6 où tu mets le son au minimum, où tu colles ta tête à l'écran et où c'était pas une bonne idée. Et plus, je sais pas si c'était particulièrement à la mode dans les années 90, mais j'ai l'impression qu'il y avait énormément de séries télé, genre Chair de poule, Fais-moi peur.
C'était trop bien.
Au-delà du cauchemar.
Et tout
non, mais ça, c'était pour les grands. Moi, je te parle, genre, vois, genre le mercredi matin, il y avait vraiment, j'ai l'impression, plein de séries qui faisaient un peu peur. Erin Diana.
Ouais,
tu vois.
Et il y avait même la série animée de Tales from the Crypt, des contes de la crypte qu'ils avaient repris, qui était trop stylée aussi en animé.
Cartoon, etc. Tu vois, mais. Donc voilà. Et donc moi, tout ça, ça vient de là, en fait. Ça vient de cette espèce de tradition du conte.
Je suis là aussi. On est là, même team.
Et pour finir un petit peu, moi, j'ai grandi dans une vieille maison. Vraiment à 100 mètres de la grosse ville, tu vois, mais genre juste en dehors. Donc la vieille maison qui grince, où dans les murs, il y a des tuyaux d'eau chaude qui passent. Donc la nuit, tu vois, les tuyaux se dilatent un peu parce que le truc d'eau chaude se remplit, quoi. Et en fait, à un moment, j'ai eu des terreurs nocturnes parce que j'entendais gratter dans les murs. Et j'en parlais à mes parents et ils me faisaient « Clara, non, il n'y a rien qui gratte dans les murs ». Ça a duré des semaines et vraiment, j'entendais très distinctement un truc qui grattait dans un mur. C'était un putain de raton laveur. Putain de raton laveur qui était entre genre la toiture et genre qui était au-dessus de ma tête en train de pendant des semaines.
L'enfer.
Genre j'avais 10 ans, je crois que tu te rends pas compte.
Non, ça devait être horrible.
L'enfer.
Le traumatisme.
Et personne qui te croit en plus. C'est comme dans les comme dans les films. Bref. Alors
vous le voyez pas mais Clara a beaucoup de notes hein. Elle a
une histoire.
C'est la personne la plus sérieuse qu'on ait eue à ce podcast, je pense.
Donc, chers auditeurs, chères auditrices, il est temps maintenant de passer aux histoires. Profitez bien avec la première histoire racontée par Clara.
C'est une histoire que j'ai intitulée « Apprendre en s'amusant ». Cette histoire, c'est celle d'un fermier du Wisconsin qui s'appelle Ed Jayne. Edward Theodore Jayne est né le 27 août 1906. D'un père et d'une mère qui sont fermiers. Il vit dans une petite ferme, juste à côté d'une grande ville du Wisconsin, et il a un frère qui est un petit peu plus vieux. Ils sont élevés par une mère très autoritaire, très religieuse, très profondément ancrée dans la religion chrétienne, qui élève ses deux fils dans une forme de tyrannie religieuse, et donc qui en fait deux enfants très timides et très reclus sur eux-mêmes. Leur père est alcoolique et meurt d'une crise cardiaque en 1940. Les deux frères reprirent donc l'exploitation de la ferme, mais ça marche pas très bien, la vie est très dure, ils vivent en plus sous le joug de cette mère extrêmement tyrannique et possessive, qui d'ailleurs les encourage à ne pas aller vers les femmes qui sont pour elle l'incarnation du mal. En 1944, le grand frère meurt dans d'étranges circonstances, soi-disant dans un incendie dans la forêt. La même année, la mère d'Edward décède des suites d'un cancer un 25 décembre. Après le décès de sa mère, à qui Ed voue autant d'amour que de haine, il décide de sceller la chambre et de vivre dans la cuisine, principalement dans la cuisine, ainsi que dans quelques autres fermes et pièces pardon, de la ferme. Et en parlant de la ferme, il arrête l'exploitation, puisque ça marche pas très bien, et il survit grâce à une petite pension versée par le gouvernement. Dès lors, Edward consacre tout son temps libre à lire des ouvrages sur l'anatomie humaine, mais également sur les camps de concentration et sur toutes les recherches médicales et toutes les découvertes médicales qui ont été faites à ce moment-là. Il s'intéresse beaucoup à ces ouvrages, en particulier à l'anatomie des femmes, puisqu'il n'en a jamais vraiment vu, à part sa mère. Il se sent frustré et un jour, il tombe sur un article dans le journal du comté qui attire particulièrement son attention puisqu'il s'agit d'un article qui annonce l'enterrement la veille d'une femme du comté dans un cimetière tout proche. Ainsi, à l'aide de son vieil ami, en 1947, il pénètre dans le cimetière et il rend visite, et il se met à rendre visite aux femmes. Donc d'abord cette femme enterrée la veille, puis d'autres, et il se met à prélever sur les corps les organes qui l'intéressent. Pendant quelques années, il continue ce petit jeu en toute impunité. Il va même jusqu'à profaner la tombe de sa propre mère. Que faisait-il des organes ? Que faisait-il des organes et des ossements qu'il prélevait ? Eh bien, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il prélevait des organes complets, c'est-à-dire il prélevait l'entièreté d'un système reproductif, l'entièreté des poitrines. On constate d'ailleurs que Ed collectait principalement des corps de femmes. Puis, quelques séries de meurtres plus tard, notamment une dame qui s'appelle Mary Hogan, l'attention de la police commence à être attirée, forcément. De là, une première enquête mène un peu nulle part, puis une deuxième enquête puisque le fils d'une des victimes va témoigner qu'il a vu cette personne-là. La police arrive à la maison d'Edward, ce dernier est absent. La police se rend alors dans le magasin que Ed fréquente régulièrement, et il le trouve tranquillement assis à déjeuner avec les propriétaires. Ed était d'ailleurs sur le point de partir, mais la police lui demande de l'accompagner au poste pour lui poser des questions. Ed acquiesce sans sourciller. Et le shérif retourne à la maison, en sachant que Ed est au poste, avec des renforts. Il se dirige d'abord vers la grange, mais celle-ci est scellée. Puis vers d'autres pièces de la maison, qui sont tout aussi scellées. Puis, en défonçant une porte et quelques barrières, ils parviennent à rentrer dans la grange, dans la maison où il n'y a pas d'électricité, ils se frayent un chemin et ils balayent la pièce avec leur lampe torche. Ce qu'ils découvrent leur glace, le sang. Des corps partout, des corps dépecés avec de longues entailles qui partent de la partie génitale jusqu'à la gorge. Les têtes ont disparu, les parties génitales ont été prélevées. Dans la maison, il n'y a pas non plus d'électricité. Les autorités utilisèrent donc une nouvelle fois des lampes torches et des lanternes pour s'éclairer. Il faisait sombre, mais les policiers voyaient suffisamment pour constater que l'endroit était sale, le mobilier vétuste et que des dizaines de livres jonchent le sol. Des revues scientifiques, des ouvrages sur l'anatomie, des revues pornographiques et des romans d'horreur. Mais le pire reste à venir, car ils découvrent tout un inventaire macabre en entrant dans la maison. Des abat-jours, des lampes, des chaises, un gilet en peau humaine, un bol sculpté dans un crâne, des appareils génitaux dans des bocaux et dans des sacs en plastique, 9 masques constitués en visages de peau humaine, des bracelets en peau, des paires de guêtres en peau, une boîte à chaussures contenant 9 vagins salés et peints couleur argentée, des têtes au mur qui servent lieu d'abat-jours. Une chemise en peau humaine, des têtes réduites, un costume de femme complet que portait de son propre aveu régulièrement Ed Jane, comprenant les bras, les jambes, la poitrine et le visage d'une des deux victimes qui avait été donc l'objet des meurtres, pas des profanations. De même, des dizaines d'organes humains sont stockés dans les réfrigérateurs. Ed Jane avoua tout de suite. Et il s'est même mis à cette occasion à expliquer toute sa méthodologie, tout son mode opératoire à la police. Il déclara notamment « Quand je faisais des masques avec la peau, Je l'ai bourré de papier pour qu'il puisse sécher correctement. D'après la police, Ed Jane aurait mutilé des quinzaines de corps de femmes pour la confection de ses trophées. Les proches affirmèrent que ces derniers n'avaient jamais apporté leur concours. Cependant, on trouva plus tard des preuves que nombre de personnes de l'entourage de Ed l'avaient aidé à profaner les cimetières, transporter les corps, etc. Edward Theodore Jane fut arrêté pour le meurtre d'une de ses victimes. Il fut mis en prison à vie dans un institut de soutien aux personnes qui souffrent de maladies mentales. Il décéda des suites de problèmes respiratoires à l'âge de 77 ans et fut enterré dans le cimetière du comté. Fait notable, bien des années plus tard, la pierre tombale de sa tombe fut volée.
Ok.
All right.
Yes.
Salut les petits loups.
C'est une histoire vraie.
Ouais.
Cool.
Mais non. Ah si, c'est le premier fait divers qui a défrayé la chronique aux États-Unis.
Wow.
Van Serial Killer, c'est le premier serial killer qui a été dans la presse.
C'est un fait divers qui a été adapté au cinéma dans un petit film pas connu qui s'appelle Massacre à la tronçonneuse.
Une histoire vraie.
Ouais. Et Psychose aussi. Et
alors c'est russe. Tu te sens bien.
Mais si vous voulez aller plus loin, parce qu'il y a Massacre à la tronçonneuse, mais ils ont fait un film qui est censé être un peu documentaire, qui s'appelle Deranged, enfin Deranged, voilà, et qui est très pas drôle du tout, contrairement à Massacre à la tronçonneuse,
ouais,
qui est un peu glauque,
qui est
un peu foufou.
Qui est très burlesque, ouais.
Ils pensaient faire une comédie, hein, quand même, Toby Hooper, en faisant le film.
Le 2 est vraiment gaulerie, si jamais vous aimez ça. Le 1 est assez, et un slasher de massacre d'adolescents. Le 2 est vraiment extrêmement burlesque. Massacre à la tronçonneuse 2, c'est gaulerie. Bref.
Ouais, carrément. Mais ouais, c'est très perturbant.
Donc voilà, donc mon idée c'était de dire que c'est super les ghouls, les vampires, les gamines qui sortent des puits, ma terreur personnelle à moi, les trucs comme ça, mais qu'en fait bah, t'as Ed, tu vois, qui est dans sa ferme au Wisconsin.
Ok, moi on peut revenir sur les vagins argentés là.
Salé
et argenté, non?
Ouais.
C'est très bizarre, c'est qu'il met du sel dessus et ensuite il les peint.
Ouais. Ouais.
Ce serait bizarre.
Mais surtout, comment on a su qu'ils étaient salés? Moi, c'est ça, là.
J'avoue, le mec, c'est le seul truc qui le choque.
Mais pourquoi il est peint?
Bah, pourquoi il est sale et il est peint
dans une boîte à chaussures?
Vraiment, c'était...
Très bizarre de
mais
faire ça.
Mais c'est pas
ça.
Le meilleur contenant. Bah, je l'ai peut-être pas.
Alors, surtout qu'en plus, là, je vous ai fait limite une version un peu courte, mais l'inventaire fait des pages et des pages et des pages. Genre, le mec s'est fait tout un dressing. Hein.
Wow.
Donc voilà. C'est, alors, il y a. Alors, je vais faire de gros guillemets à la radio, très efficace. Il y a officiellement deux meurtres. Tout le reste, en fait, c'est des personnes qui étaient déjà décédées, qu'il est allé déterrer. L'idée, c'est pas de dire que c'est moins grave, mais semblerait-il, cette personne aurait donc tué deux personnes.
Ok.
Cyrus, la tâche est lourde, pour la mission est compliquée pour passer après ça.
Non, ouais.
C'est à l'arrière de la gorge et un peu haut dans le nez, si tu veux. Ça, elle est là, la voix.
Ok. non, moi, c'est compliqué parce que, si tu veux, là, au stade où j'en suis, je la raconte pas tant pour gagner, entre guillemets, la meilleure creepypasta, mais plus pour. Parce qu'il faut que je le sorte, quoi.
Okay.
Donc, faut que j'en parle.
Bien, Cyrus, tous les auditeurs et les auditrices du Mur Podcast, écoute ton témoignage.
Ok. En gros, c'était il y a 12, 13 ans. On est parti avec des potes en vacances. Donc, on était quatre. J'étais avec Pierre, Kevin et Antoine. Et on est parti voir les châteaux de la Loire. On est parti voir les châteaux de la Loire et tout, c'était trop cool. Chenonceau, Cheverny, Chambord, machin, enfin voilà. Et vu qu'on n'avait pas trop de thunes, on avait nos tentes et on faisait les campings et tout, enfin voilà. Et il y a un soir où, la troisième nuit, on se dit, bon bah vas-y, on fait un camping sauvage, on va en forêt, etc. Et... j'espère qu'ils m'en voudront pas d'ailleurs de partager ce truc, mais bon, tant pis. Et je me souviens qu'en début d'après-midi, on part en forêt avec la tente, etc. Parce qu'on voulait d'abord visualiser le truc, parce qu'on savait que la nuit, on verrait rien. Donc on trouve le spot, on met le point GPS, etc. On avance en voiture assez loin dans la forêt, et quand on peut plus avancer en voiture, on y va à pied et on trouve un petit endroit où on peut se poser, quoi. Donc ok, voilà, on fait le point GPS, hop. On repart, là ça devait être Chambord ou un truc comme ça. On revient le soir et la nuit tombée et tout. Je me souviens dans la voiture, et Kevin qui a mis la musique de Requiem for a Dream dans la voiture pour nous faire flipper, etc. Kevin c'était un peu le casse-cou de la team. Antoine, c'était lui qui était au volant, il était beaucoup moins serein, il a vite changé, il a mis du Ray Charles, ce qui dénote totalement avec le moment, mais bon. Et Pierre, lui, vraiment, il comprenait même pas ce qui pouvait faire peur, quoi. Moi, j'étais un peu entre Kevin et Antoine. Et je filmais tout, enfin, comme depuis toujours, Tom, tu me connais, je filmais et tout, j'avais une caméra, à l'époque, c'était des mini DV, des mini cassettes, etc., et j'avais un mode night shot. Et donc, je pouvais voir dans la nuit et tout, c'était assez ouf. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi ils font plus ça, parce que vraiment, c'était de la balle, vraiment, c'était de la balle. Enfin bon, on sort de la voiture, etc., on retrouve le chemin, etc., on trouve là où il y avait de la tente, et j'allais dire, on plante la tente, mais non, parce que c'était une quechua, là, où on la jette, quoi. On la jette, elle s'ouvre, on se met dedans. Et on était clairement pas serein, parce que, bah, mine de rien, t'es au milieu de la forêt, il y a plein de bruit et tout, enfin, c'est assez flippant, quoi. Donc on est allongés tous les quatre. Pour être très honnête avec vous, on se tient la main tellement il y a une ambiance flippante dans la forêt. Il y a des moments où tu sens des traces de pas en fait autour de la tente, et parce que les animaux s'intéressent, se questionnent, etc. Et je me souviens à un moment où il y a comme un museau un peu à travers la tente qui pousse un peu mon épaule. J'étais en extérieur. Et à un moment où on entend un cliquetis, un truc qui fait très métallique, quoi. Ça fait très métallique, on l'entend dans la forêt. Et moi, je me souviens, je dis à Antoine, c'est très régulier quand même, ce bruit. Et Antoine, il me fait genre trop régulier. Et on était hyper stressés. Alors, je crois que c'est Kevin qui dit que genre, ça devait être un insecte ou une grenouille ou un truc comme ça. Et il y a toujours le cliquetis. Et ça dure assez longtemps. À un moment, il y a une feuille qui tombe sur la tente. Donc ça nous fait hyper flipper. Mais bon, voilà, c'est les bruits de la forêt. Donc t'imagines plein de choses, etc. Mais par contre, le cliquetis reste. Et le cliquetis, on a la sensation qu'il se rapproche. Et Pierre, ça l'embêtait parce qu'il n'arrivait pas à dormir, du coup. Et donc Pierre, il fait « Ok, bon, bah moi, je vais voir ce qui se passe, quoi. » Alors, nous, on était vraiment pas sereins. Enfin, Antoine et moi, on n'était pas sereins. Kevin, je sais pas s'il faisait genre ou quoi, mais il n'avait pas l'air d'être perturbé par ça. Bref, on ouvre la tente. On ouvre la tente et on voit rien. On voit rien, on l'entend, mais on voit rien. Je sors ma caméra. Et là, c'est fou parce que... j'ai l'autofocus, donc qui détecte les visages, et qui fait le focus sur les visages, qui se fait au milieu de. Bah, de rien, en fait. Enfin, qui le fait dans le vide, avec le night shot. Donc, moi, clairement, je suis pas bien. Et Pierre qui dit. Je sais pas, soit c'est un bug, soit il se passe quelque chose, quoi. Et donc, il bouge, il avance. Et là, du buisson ou j'ai envie de dire des ténèbres parce que vraiment c'était le noir, il y a un mec qui arrive, qui sort de là, genre un vieillard, tu vois, clairement un SDF, quoi. Enfin, il ressemblait à un SDF. Et le gars, est-ce que le cliquetis c'était lui ou pas? Enfin, oui, sûrement, mais tu vois, il était pas en métal ou quoi. Enfin, bref, très bizarre. Et le gars nous dit c'est ma forêt, et donc si vous voulez rester, vous devez payer, en gros. Alors nous, on se regarde et tout, on est en flip total, Antoine il est au fond de la tente, moi je suis derrière Kevin, et on se regarde en mode, ok, bon, bah, on va le payer, quoi. Enfin, tu vois, si c'est son terrain, ok, on va le payer. Et lui, il lui dit, mais mec, la forêt, elle, ça a tout le monde, va te faire foutre, t'auras rien du tout. Donc il commence à s'embrouiller, etc. Louis le bouscule un peu. Le mec se barre, plus de cliquetis. Ok, on va se coucher pas serein, en mode, bon, bah vas-y, on met le réveil assez tôt le lendemain matin pour se barrer avant que le gars revienne avec une carabine, quoi. On se couche, on se réveille le lendemain matin, et dans la tente, Pierre n'est plus là. Il y a Kevin, Antoine et moi. On sort de la tente. Et là, il y a le... Il y a le corps de, il y a le corps de Pierre qui gît à côté de la tente, avec genre la mâchoire éclatée et une dent arrachée, tu vois, au fond de sa mâchoire. Et en fait, c'était son, il avait un plombage en or, tu vois. Et le mec lui a pris, quoi. Ou enfin, a priori, le mec lui a pris. Et sur son torse, qui, tu vois, il y avait les fringues déchirées, et sur son torse, il y avait, avec les ongles, le mec, il a, il a genre gravé, payé. Tu vois, genre, E accent aigu, en mode, ça y est, c'est fait, tu vois. Alors, nous, on est flippés de ouf. Là, à ce moment-là, on trace. C'était plein jour, mais on trace quand même. On était flippés de dingue. Et en fait, on arrive et on va à la première ville un peu plus loin et on se demande comment on va l'annoncer aux parents, etc. Enfin, on est juste quatre potes, on est partis ensemble. Enfin, tu vois. Et là, il se passe un truc chelou parce que moi, je re-regarde les rushs sur la caméra et il n'y a pas Pierre sur les rushs. Mais genre, il n'y a pas Pierre, pas que sur la soirée, genre la veille, l'avant-veille, il n'y a pas Pierre, tu vois. Et on regarde nos photos et il n'y a pas Pierre. Et là, on commence à bader. On rentre à Paris. Pierre, il a jamais existé, tu vois. Genre, les gens nous... Personne n'a jamais entendu parler de Pierre. Et je vous raconte cette histoire parce que Antoine, Kev et moi, on... Bah nous, on est toujours là et on n'a jamais vraiment compris ce qui s'est passé ce soir-là. Peut-être que le mec, il a pris son or et il a pris en même temps... l'existence de Pierre, tu vois, peut-être qu'il allait juste... Enfin bref, peut-être que le coût était plus élevé que ça, et le seul truc, c'est que voilà, si jamais vous croisez un vieillard en forêt, payez, quoi. Payez.
Ouais, on a un climat qui est beaucoup moins détendu qu'en début d'émission autour de cette table. Merci Cyrus. Chers auditeurs, chères auditrices, il est l'heure d'écouter l'histoire de Halt 236.
Alors moi, je vais vous parler d'un fait divers qui s'est passé en 1983. À cette date, il y a une équipe du FBI qui a procédé à l'arrestation de deux chirurgiens-chercheurs qui étaient à la faculté de médecine de Portland. Les deux hommes, qui étaient profondément pieux, même de façon un peu extrême, malgré leur statut de scientifique, avaient décidé de mener une expérience radicale dans le dos de leur direction et dans un bâtiment de la fac qui n'était plus occupé. Donc les deux scientifiques, ils avaient émis l'hypothèse qu'un humain sans accès à aucun sens, ni à aucun moyen de percevoir un stimuli extérieur, serait alors capable de percevoir la présence de Dieu. Ils croyaient en fait que les cinq sens obscurcissaient notre conscience d'une éternité, voilà, et que sans ces sens, on pourrait peut-être établir un contact avec Dieu par la pensée, quoi. Donc ils ont trouvé un homme âgé... qui était voilà, dans la misère et qui affirmait n'avoir plus rien à vivre. Et donc, ils ont réussi en fait, à le convaincre de venir en se disant que peut-être que personne viendrait réclamer son corps en cas d'échec. Enfin, voilà, ils sont vraiment partis dans quelque chose de totalement illégal. Et donc, c'est grâce au rapport de police et au journal qu'ils ont laissé en fait, leur log de recherche où ils ont, en fait, par date, expliqué comment évoluait le sujet, etc. Donc, pour le priver de tous ses sens, ils ont d'abord effectué une opération hyper complexe dans laquelle ils ont sectionné chaque connexion nerveuse voilà, qui était chargée d'envoyer les informations au cerveau. Et donc, bien que le sujet il ait conservé ses muscles, etc., il ne pouvait ni voir, ni entendre, ni goûter, ni sentir, ni toucher. Donc, sans aucun moyen possible de communiquer ou même de ressentir le monde extérieur, l'homme était seul avec ses pensées. Donc, c'est comme ça qu'ils débutent leur expérience. Et dès le retour du bloc, le vieil homme, il commence à parler à voix haute de son état d'esprit, de ce qu'il ressent, etc. Mais c'est des phrases confuses, embrouillées, et lui-même ne peut pas les entendre. Donc voilà, il parle sans peut-être même s'en rendre compte. Et puis au bout de 4 jours, l'homme, la victime, hein, bah, prétend entendre des voix chuchoter de façon incompréhensible dans sa tête. Donc les deux médecins supposent d'abord qu'il s'agit d'un début de psychose. Donc il ne prête pas spécialement attention à ses élucubrations dans un premier temps. Mais 2 jours plus tard, l'homme commence à crier qu'il peut entendre sa femme décédée. Il avait perdu sa femme, donc il pouvait l'entendre, parler avec lui dans sa tête, et surtout qu'il pouvait communiquer. Donc les scientifiques commencent à être vaguement intrigués, mais ils n'étaient pas spécialement convaincus jusqu'à ce que le sujet commence à parler de proches décédés des médecins eux-mêmes, avec des informations que seuls les conjoints et proches pouvaient savoir. Donc là, ça devient particulièrement déroutant pour les scientifiques, et c'est à ce moment-là qu'il y en a un des deux qui disparaît, quoi, qui quitte l'étude, trop troublé par ce que lui a dit le vieil. La victime, après une semaine de conversation avec les défunts dans ses pensées, il est devenu de plus en plus angoissé, disant que les voix étaient accablantes, mortifères. Donc à chaque instant, sa conscience était bombardée par des centaines de voix qui refusaient de le laisser tranquille, donc ça rend totalement fou. Le vieil homme est saisi de spasmes, il commence à se jeter contre les murs pour essayer de ressentir quelque chose, en fait. Donc il devient complètement fou de plus rien ressentir et d'être condamné, emprisonné dans sa tête avec ses voix. Et il a fini par supplier le scientifique pour avoir des sédatifs afin de pouvoir échapper aux voix dans son esprit. Donc cette tactique, ça a fonctionné pendant 3 jours jusqu'à ce qu'il commence à avoir des terreurs nocturnes, donc des choses qui l'ont carrément réveillé de sa sédation. Donc le sujet a répété à plusieurs reprises qu'il pouvait désormais voir les défunts dans sa tête, enfin ce qu'il estime être des défunts en tout cas. Et seulement un jour plus tard, il a commencé à hurler cette fois-ci véritablement et à se griffer les yeux qui ne lui servaient plus, mais pour essayer de ressentir quelque chose, pour arrêter de voir ces images dans sa tête. Et puis il tombe dans une forme d'hystérie cette fois-ci et il dit que les voix défuntes deviennent assourdissantes, hostiles, qu'elles parlent que de l'enfer et de la fin du monde. Et à un moment donné, le sujet a même crié pendant 5 heures d'affilée « Pas de paradis, pas de pardon, pas de paradis, pas de pardon ». Voilà, comme un mantra. Et il priait pour être tué, qu'on termine sa condition. Mais le scientifique était convaincu qu'on approchait justement de ce moment où, un peu comme les martyrs, il allait pouvoir accéder à un niveau de conscience supérieur. Et après un dernier jour, le sujet ne pouvait plus former de phrases cohérentes. Il était apparemment très en colère, il a commencé à se mordre des morceaux de chair sur son bras. Et le scientifique, du coup, s'est précipité dans la chambre de test et l'a sanglé à une table pour qu'il puisse pas se tuer, quoi, tout simplement. Et après quelques heures de ligotage, le sujet a complètement cessé de se débattre et de crier. Il regardait fixement le plafond et il s'est mis à pleurer silencieusement, énormément. Au point que pendant les 2 semaines qui suivirent, il n'a fait que pleurer en silence. Il a fallu le réhydrater avec des perfusions parce qu'il était desséché à cause de ses larmes. Et puis au bout de 2 semaines, à un moment où le médecin était dans la pièce, il s'est tourné vers lui et il l'a regardé comme si, malgré ses yeux griffés et inutilisables, il pouvait voir le médecin. Donc il a vraiment regardé en face et il a commencé à chuchoter quelque chose. Donc le médecin s'est approché et la victime a dit quelque chose à peu près, c'est ce que dit en tout cas le log, il a dit ceci: j'ai parlé à Dieu et il nous a abandonnés. Et juste après, il est mort. Et le scientifique, en regardant son corps au moment de son décès, n'a trouvé aucune cause de la mort. Voilà.
Ok. Ok. Merci pour ce témoignage.
Merci.
Alors, c'est une creepypasta, il faut quand même rendre... Alors, l'auteur est inconnu et je l'ai un petit peu trafiqué, mais c'est une creepypasta qui s'appelle Gateway of the Mind. Portail de l'esprit. Voilà.
Okay.
Donc, il faut rendre à César.
Bien sûr.
Qu'on vous dise qu'on enregistre lundi entre midi et 2, donc oui. Que la semaine fait encore 4 jours et demi. C'est pas sympa.
Très bien. C'est à mon tour.
C'est à ton tour, Tom.
Je vais pas bien, Tom. Épargne-nous, Tom.
Moi, je voulais déjà m'excuser un petit peu parce que, donc, du coup, j'ai cherché un petit peu des rapports de journalistes, de policiers, etc. Et j'ai une affaire qui m'a beaucoup plu que je voulais vous relayer, qui est en anglais. Que j'ai traduite, donc du coup il est possible que la syntaxe soit pas idéale. Je tenais à m'excuser au préalable. Du coup, c'est le témoignage d'un journaliste de l'Ohio que je voulais vous faire suivre. Je vous raconte son témoignage. Il y a de cela 25 ans, j'étais un jeune journaliste pour un journal local de l'Ohio. J'étais vraiment au balbutiement de ma carrière, mais mon premier grand article ne s'était pas fait attendre. En effet, celui-ci parlait d'un tueur en série qui avait détourné un bus scolaire, qui avait à son bord 19 adolescents, un chauffeur et 2 professeurs. Après avoir tué les adultes, le tueur en série, Raymond Pius, avait emmené les ados dans sa maison de campagne où il avait mis en place de quoi les garder captifs tout en pouvant s'adonner complètement à ses pulsions meurtrières. Il n'y a eu que 2 survivants à ce massacre. Je vous partage ici mon article pour que vous puissiez prendre connaissance de cette affaire. L'héroïne, une adolescente, s'échappe de la maison des horreurs.
Laura Morrison devient une héroïne après s'être échappée des griffes d'un tueur en série, sauvant également un camarade de classe. On dirait le scénario d'un film d'horreur, mais c'est pourtant bien réel. Après avoir détourné le bus d'une classe de seconde, un tueur en série, Raymond Peyus, a ramené les passagers chez lui, là où il les a enfermés dans une cage. Chaque jour, il sortait un élève et le torturait de façon horrible, tout en obligeant le reste des élèves à assister au spectacle. Mutilation, scarification, dépeçage. Puis il les tuait à l'aide d'un marteau. C'est pendant qu'il lobotomisait le pauvre Tony que Laura est parvenue à sortir de sa cage et à tuer leur bourreau d'un coup de marteau dans la tête. À l'arrivée de la police sur les lieux, il y avait 17 cadavres d'adolescents qui pourrissaient sur le plancher. Un spectacle macabre qui n'aura laissé que deux survivants, notre héroïne Laura et Tony. Ce dernier est désormais dans un état végétatif. « C'est la foi en Dieu qui m'a permis de survivre dans cet enfer », a déclaré la jeune Laura. Elle, qui était la souffre-douleur de sa classe depuis plusieurs années, a réussi à trouver en elle le courage d'affronter ce tueur en série et de sauver son camarade de classe. 17 cadavres, 17 jours de calvaire. C'était un vrai miracle que cette Laura ait réussi à tenir et avoir le courage de se révolter au bout de tant de temps. Surtout que selon la police, les tortures infligées aux adolescents étaient encore plus perverses que ce que Raymond Peyus avait l'habitude de faire. C'était un vrai miracle que cette jeune femme harcelée à l'école ait pu le mettre hors d'état de nuire. C'était il y a 25 ans. Depuis, j'ai écrit beaucoup d'articles, mais aucun ne surpasse celui-ci en termes d'horreur. C'est pour cela qu'à l'approche d'Halloween, mon chef m'a demandé la semaine dernière d'aller voir ce qu'étaient devenus les survivants de cette affaire, à savoir Laura Morrison et ce pauvre Tony. Laura a réussi dans la vie. Suite à son nouveau statut d'héroïne, elle est passée de souffre-douleur à star du lycée. Elle a pu obtenir facilement des bourses d'études et a suivi un cursus médical, puis est devenue médecin. Actuellement, elle est en Afrique, en mission humanitaire pour aider les enfants les plus démunis. Un vrai conte de fées. Comme si cette affaire l'avait rendue plus forte et avait provoqué en elle le déclic pour mener sa vie de la meilleure des façons. Puis je suis allé voir Tony. La première fois, je n'ai pas pu le rencontrer. Ses parents m'avaient informé qu'il avait une maladie incurable et qu'il n'allait pas bien en ce moment. Je n'ai pas pu m'empêcher de plaindre ce garçon, réduit dans la fleur de l'âge à l'état de légume par un tueur en série. Et ensuite contracter une maladie mortelle et incurable. A l'inverse de Laura, cette affaire avait gâché sa vie de la plus cruelle des manières. Même s'il était un des harceleurs les plus zélés de Laura, il ne méritait cela en aucun cas. Ses parents m'ont contacté hier, m'annonçant qu'il n'en avait plus pour longtemps malheureusement et que son agonie allait bientôt se terminer. Je n'aurai donc plus l'occasion de le rencontrer. J'y suis donc allé, et au chevet de son lit, il a prononcé ses premiers mots en 25 ans de silence, tout juste avant de rendre l'âme. Ces mots résonnent encore en moi, donnant naissance à un terrible frisson me parcourant tout le corps. Des mots qui donnent une toute autre vue sur cette affaire datant de 1990. Elle a eu le tueur, le premier jour. Rendons à César ce qui est à César également. C'est une creepypasta que j'ai trouvée sur l'excellent site Creepypasta from the Crypt, qui répertorie beaucoup d'histoires qui font peur, si vous aimez ça.
Je l'ai lu hier soir et je l'aurais prise si j'avais pas
vécu une histoire traumatisante.
Si j'avais pas vécu une histoire traumatisante.
Toi-même. Voilà. On espère que vous avez passé un bon moment avec ces histoires. Merci déjà juste à tout le monde d'avoir pris le temps de.
C'est un vrai plaisir.
Merci beaucoup. Ouais.
Est-ce qu'on reprendrait pas quand même la tradition de ce podcast et allons faire peut-être un vrai ou faux, mon petit Cyrus?
Bien sûr, avec plaisir.
J'ai trouvé des anecdotes, des facts, des statistiques flippantes.
Ok.
On me dit si elles sont réelles ou non. Parfait. Tout simplement. 84, c'est le nombre de matchs que les utilisateurs ont en moyenne avant de tomber sur une personne qu'ils voient comme un partenaire potentiel. 84.
Il y a un rapport avec ce qu'on vient de se raconter ?
Non, absolument pas. C'est juste un fait. C'est un fait qui peut être flippant. Oui, on est passé totalement dans une autre
ça
ambiance.
Ça me semble beaucoup 84. Quand
même. 84. Attends.
84.
84. Le nombre de matchs. Ouais, avant de tomber sur un partenaire, avant de considérer un partenaire potentiel.
C'est trop 84.
Ouais, c'est moins.
C'est vrai.
C'est vrai ? Tu vois en moyenne 84 profils avant de dire toi, ok.
A priori.
J'avoue, je pense qu'on s'en rend peut-être pas compte. Hein.
Les abysses, ou visualiser les abysses, ouais. Le monstre marin qu'on voit jamais, etc., qui font très peur. Figurez-vous qu'il y a encore 95% des sols océaniques qui n'ont jamais été vus par l'homme.
C'est vrai.
Vrai.
C'est totalement vrai.
On dit souvent qu'on connaît mieux l'espace que nos fonds marins.
C'est vrai. Michel Drucker aurait en réalité 32 ans.
C'est vrai.
Michel Drucker, peut-être, mais Michel Drucker, non. Il est lyophilisé là presque à ce stade-là.
Il est fabriqué en boîte noire.
Moi, j'aime
beaucoup.
Sois
gentil avec nos monuments nationaux.
Mais oui, bien sûr. Non, mais...
Si vous ne vous reproduisez pas, vous serez le tout premier de toute votre lignée à ne pas le faire.
Ah, de notre lignée ?
Bah oui.
Non, dans notre famille, on peut avoir des gens qui n'ont pas eu d'enfants, c'est ça ta question ?
Mais ils sont pas dans ta lignée.
Bah si. Ta tante, par exemple, est dans ta lignée.
Mon frère, il est dans ma lignée, il peut ne pas avoir d'enfant.
Non, pour moi, ta lignée, c'est genre les gens qui sont arrivés. Enfin,
Ouais. C'est à la suite. C'est forme d'entonnoir.
Donc, alors, non, pour moi,
Rolly,
oui. Pour moi,
donc,
oui,
c'est
exact.
Vrai. Si vous ne vous reproduisez pas, vous serez le tout premier de votre lignée à le faire.
Donc l'adoption, ça marche pas.
Parce que d'être lignée, c'est la suite des gens qui
biologiquement, ont... Biologiquement, non. Je trouve ça assez fou, c'est ce choix de te dire, potentiellement, j'aurais pas d'enfant, te dire qu'il y a des... C'est-à-dire qu'il y a des centaines de générations qui ont fait des enfants, t'es le premier qui met fin à tout ça.
J'avoue,
ça c'est vertigineux.
Les pigeons sont capables de se rappeler de certains visages.
Bah oui, j'ai envie de te dire.
Allez, oui.
Absolument pas.
Okay. Bah pourtant, il y en a.
Est-ce que tu t'ennuies, Tom ? Est-ce que tu veux qu'on parle de tes soirées ?
C'est vrai. Super bien. Nous possédons une colonie de centaines de bactéries dans notre nombril qui génère un écosystème équivalent à celui d'une forêt tropicale.
C'est sûr que oui.
C'est faux.
Ouais.
C'est totalement vrai.
Ah, l'équivalent d'une forêt tropicale carrément, putain.
Ça fait rêver quand même.
Il y a une chance sur 75 000 que l'on se réveille dans notre tombe.
C'est vrai.
Oh, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup 75 000.
Mais du coup, on pourra jamais le dire parce que je suis pas là pour le prouver.
Alors, j'ai vu ce film.
Ça me semble, j'aurais dit plus quand même.
Attends, parce que 75 000, en fait, j'ai envie de diviser ça par le nombre de nuits dans les... où tu dors dans ta vie. Tu vois, il y a combien de jours dans une vie à peu près ? Donc, moi, je vais dire que c'est faux.
C'est complètement faux, c'était totalement inventé.
Ah bon ? Non, mais ouais. Alors, parce que ça existe vraiment, et c'est pour ça que le croque-mort, d'ailleurs, porte ce nom.
Ouais.
C'est
qu'il a croqué
l'orteil
pour
qu'il était bien mort.
Pour vérifier qu'il soit bien mort.
Bien écoute, je ne pensais pas déboucher sur une anecdote aussi intéressante derrière.
Donc, je pense qu'il y a vraiment des gens. Alors, aujourd'hui. À mon avis, c'est rarissime, voire impossible.
Ce qui est flippant, c'est que tu peux pas, mais en fait, peux pas le savoir parce que les gens ils se réveillent, ils peuvent pas communiquer. Enfin, tu vois, tu attends de remourir en fait. C'est ça qui est horrible, je trouve.
Mais il y a une époque où c'était, je vais pas dire fréquent, mais il y a une époque où ça arrivait quoi. Tu vois, et donc c'est pour ça qu'il y avait les croque-morts qui croquaient l'orteil.
Une époque où il y avait pas, tu sais, les IRM, les électrocardiogrammes, les trucs comme ça.
Est-ce que vous pensez pas que en fait, on devrait une fois que quelqu'un est mort. Et que tu vois, genre avant d'aller se faire enterrer, etc.,
bien le transpercer avec un poignard, je suis totalement
d'accord. Petite piqûre euthanasie, tu vois, pour être sûr, quoi, tu vois, au cas où, tu vois,
pour être sûr de bien le tuer si jamais il est pas mort,
non, pour être en fait, sûr qu'il se réveille pas, quoi.
T'es à l'envers dans le raisonnement, en fait, c'est justement
bah
ce
moment. On a tout essayé pour le réveiller, il se réveille pas, bon, bah dans ce cas-là, vas-y, on s'assure qu'il est mort.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent la crémation à cause de cette peur, je pense.
Ah, c'est pas faux.
De se réveiller, de dire ouais, voilà.
J'ai fait une expérience VR où en fait, justement, t'es un mec qui se réveille pendant qu'il est dans le four.
Ah, quelle angoisse.
Ouais.
C'est yes, le lien dans la description. Vous êtes prévenus.
Je me rappelle pas du nom, mais je l'ai trouvé.
Avec un gros avertissement devant. Très chers amis, il est l'heure de passer au vote et de nous dire quelle était pour vous, parmi les quatre histoires racontées, la meilleure histoire flippante.
On précise que, effectivement, on vient d'en parler un peu en off, mais c'est un vote pour la forme, dans le sens où le but, c'est pas vraiment d'élire un truc, mais c'est plus de discuter de ce qui fait une bonne histoire flippante ou pas.
Exactement.
Etc.
C'était un épisode, voilà, vous l'avez compris, un peu spécial, qui change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude, mais on voulait faire un épisode pour Halloween dans ce mood-là. Clara, quelle a été pour toi la meilleure histoire racontée autour de cette table ? Tu as le droit
de... J'ai vraiment aimé celle de Cyrus. J'ai vraiment aimé ton histoire. Je trouve que ça concentre tout ce qui fait une bonne histoire, tu vois, le fait de fictionniser un truc réel. Moi, j'ai passé toute l'histoire à faire des blagues dans ma tête, à me dire « c'est Kevin qui meurt en premier !» Et en fait, tu vois, il y a un moment où en fait, tu nous as eu, quoi. Et elle fonctionne hyper bien, ton histoire. C'était cool. Moi, j'ai eu peur et je me dis que tu vois, genre, moi j'ai grandi en Rhône-Alpes, donc à moitié dans la montagne et tout, et je me dis que ça aurait été un vrai truc qui aurait hyper bien marché un soir de novembre avec un feu de camp, puisque ceci existe, hein, un soir de novembre avec un feu de camp, et tu sais, et des bières, et t'as 15 ans, et t'es un ouf. Mais ouais, vachement bien.
Bah merci beaucoup. Je me rends compte que j'ai oublié de raconter un truc, c'est qu'en fait le cliquetis, c'était ses pièces au gars.
Ah d'accord, ouais. Non, très juste.
Enfin bref.
Nickel.
C'est pas grave, tu vois, puisqu'il y a un truc de genre, du coup, c'est pas mal un élément pas résolu dans une histoire.
C'est vrai, c'est vrai.
Il faut des questions en suspens. Ok, halt pour toi.
Bah, moi, je vais pas reproduire les erreurs du passé, je vais voter directement pour Cyrus, mais non pas à cause de ça, mais aussi parce que moi, je l'ai beaucoup aimé pour les raisons que tu venais d'invoquer. Parce qu'en fait, t'es remonté à la source des creepypasta. À la base, les creepypasta, c'est vraiment sur 4chan des gens qui disent on se raconte les histoires qu'on se racontait gamin. Et donc, en fait, c'est passé sur internet, on a adapté ça, mais à la base, c'est vraiment ça, la sève, c'est on est avec des potes, on flippe et on y va. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans
ton
histoire.
J'ai l'impression d'être à la nouvelle star, vraiment, je suis le jury.
Ouais, alors, ça. J'ai adoré ta démarche.
Et je veux que tu rejoignes mon équipe. non, et du coup,
ton univers.
Ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, ce que j'ai préféré, je crois, dans ta creepypasta, c'est le twist final, finalement. Alors,
oui, il y a eu twist sur twist.
C'est avec elle qui fait ça.
Que Pierre n'existe pas, en fait. Et presque, j'aurais presque eu envie que, tu vois, ça devienne un truc encore plus terrifiant, parce que je trouve que c'est une super bonne idée. Tu nous emmènes sur le vagabond dans la forêt flippant et tout. Ça marche très bien, c'est assez classique presque. J'ai pensé à Blair Witch. Je me suis même dit, tiens, il adapte Blair Witch à sa sauce en disant on va en forêt, puis il y en a un qui disparaît le matin. Mais en fait, le fait que Pierre n'ait pas existé, c'est, je crois, ce que j'ai préféré dans l'histoire.
C'est très cool.
Ouais.
Oui. Je joins mon vote également.
C'est vrai ?
Bah, ouais. Effectivement, comme ils l'ont dit, je pense que c'est pas forcément celle qui m'a fait le plus flipper en termes de projection, mais en tout cas, dans la manière de le raconter, la narration, le fait de le mêler à un souvenir et tout, oui, je pense que, comme l'a dit Alt, l'essence des creepypasta, et c'est
et
ce qu'on a envie d'entendre.
Tu l'as inventé ?
Alors, ouais, je vais vous raconter ce qui est vrai et ce qui est faux.
Vas-y.
Pierre, il a vraiment disparu. Ouais. Tout le reste est faux, mais ça, c'est
non, quoi ? Je suis Pierre.
Non, mais en fait.
Oh. Wow.
En fait, on est parti effectivement il y a une douzaine d'années voir les châteaux de la Loire et faire du camping sauvage une nuit avec Antoine et Kevin. Et Pierre n'a jamais existé.
D'accord.
Et en fait, c'est marrant parce que Kevin, qui écoute sûrement ce podcast parce que j'ai déjeuné avec lui, ça faisait longtemps, plus d'un an qu'on n'avait pas déjeuné ensemble, et il m'a dit « Ouais, j'écoute le podcast. »
Vas-y, continue.
Et genre, on a déjeuné ensemble et il m'a dit « Ouais, j'écoute le podcast et tout, c'est trop cool, machin. » Et donc, du coup, ça m'a fait penser à ça. Et donc, bah, dédicace, Kevin. J'espère que cette histoire t'a plu et t'a rappelé des souvenirs.
Mais reviens, Kevin. Sors de la forêt.
Et donc, c'était hyper flippant. On a flippé de ouf. J'avais effectivement ma caméra, night shot, etc. Tout ça, c'était vrai. Il y avait effectivement un cliquetis. C'était très, très probablement 99,9%, genre une grenouille, tu vois, un truc comme ça, ou un insecte, une sorte de criquet, super criquet, quoi. Et donc, tout ça, ça a donné de la matière pour faire ce truc-là. Je savais que je voulais faire disparaître Pierre des rushs, etc. Je trouvais ça marrant, mais je savais pas trop comment gérer l'interaction avec le gars. Et donc, au début, ils partaient ensemble, enfin je savais pas trop comment le faire, et en fait j'ai trouvé ce matin le fait que bah vas-y, il va juste en fait lui prendre de l'or, et qu'en fait les cliquetis c'était pas, parce qu'au début je me suis dit je vais faire une jambe en métal,
ouais.
En fait je trouve ça plus cool qu'il juste demande son dû, tu vois,
ouais.
Ce qui est un truc plus logique,
ouais.
Et voilà, j'ai trouvé ça ce matin.
Non, ouais, puis t'as mis un peu, c'est marrant, t'es parti sur un registre sur lequel on ne connaît pas beaucoup, qui est celui de l'émotion et de la confession, tu vois, t'es toujours dans une forme de maîtrise, et là te vois...
Ça a tremblé,
mais
toi.
Mais oui, t'étais dedans, quoi.
Ouais, j'étais vraiment dedans, quoi.
Ouais, c'est une vocation qui se crée, j'ai l'impression, devant nos yeux.
Est-ce que vous aviez ce truc, quand vous étiez un peu plus jeune, où vous regardiez des histoires qui font peur, des machins, des trucs? Moi, je me disais, comme ça, je vais apprendre à survivre.
Oui, toujours, ouais, ça peut, bien sûr.
Genre, je me rappelle, il y avait un épisode dans genre Chair de poule, un truc comme ça, où c'était des ados, ils se faisaient tatouer, et à la suite de leur tatouage, ils leur rêvaient des trucs horribles. Donc je m'étais dit, ok, donc la règle, c'est qu'il faut pas se faire tatouer. Ok,
bien sûr.
Ouais, c'est complètement dans l'éthique puritaine des films d'horreur. C'est genre, je vais rester vierge jusqu'à 23 ans.
Tu sais bien.
Non, mais il y avait vraiment, et tu vois, et là, il y a un espèce de truc de genre. Tu fais pas du camp. Non, mais.
S'il faut payer, tu payes.
Il y a vraiment ce truc.
C'est la convention des histoires d'horreur.
Ouais,
en vrai, c'est ça.
Bien sûr, bien entendu. Sûr,
ouais. Je tirais les enseignements.
L'histoire, c'était autour du feu pour se dire il y a des bêtes la nuit. Ouais, tu sors pas, il y a des pumas, quoi. En gros, simplement, on a raconté ça, mais finalement.
Ça, avec un conteur qui vient, qui te cherche. Qui...
Les griots. Ouais,
important d'avoir des enseignements des films d'horreur, ce qu'il ne faut pas faire avec les films porno, par exemple. Ne pas tirer l'enseignement sexuel, les performances qu'on voit.
Et d'ailleurs, Tom, je rebondis à un truc dont on avait parlé donc, pour la préparation de l'épisode, qui était genre les peurs de l'enfance, etc. Moi, ma peur de l'enfance, par exemple, c'est vraiment tout ce qui est non, qui n'est pas dans les règles naturelles et physiques, en fait.
D'accord. Genre les démarches qui changent et tout, les trucs comme
ça. Genre par exemple, je sais pas, quelqu'un qui un esprit qui se téléporte ou tout ce qui est surnaturel, vu que je sais pas comment
le rationaliser.
Et comment me défendre, en fait, je connais pas les règles.
T'as pas de prise.
Je sais pas s'il y a un sort à sortir. Je sais, j'ai pas les incantations. Et vu que je suis désarmé, c'est ça qui me fait peur, tu vois.
Ouais.
Alors que les trucs où, genre, je sais pas, typiquement massacrer la tronçonneuse, bon bah ok, s'il faut courir et sauter par-dessus une, enfin sauter dans une fenêtre et voilà.
Oui, il y a une logique, il y a un caractère, genre bah si tu fermes la porte, bon bah il peut pas traverser la porte en se dématérialisant.
T'as des problèmes et des solutions, mais face au surnaturel, t'as pas de solution.
Voilà, ou alors tu les, enfin exactement, tu les connais pas, quoi. Donc moi c'était vraiment ça qui me faisait flipper, et même encore, je vais pas dire encore aujourd'hui, mais tu vois, genre j'ai du mal à regarder un film d'horreur parce que ça me marque, tu vois, et parce que. J'y pense parce que ça me fait un peu peur, ouais.
Les amis, merci beaucoup pour votre venue et pour vos témoignages.
C'était
un
de la balle.
Gros kiff.
Cool. C'était de la balle.
Ouais, c'était
franchement, merci beaucoup.
Un très bon moment. Clara, pour les gens qui ont envie de t'écouter raconter des trucs qui font peur ou des gens qui ont envie de savoir s'ils veulent appeler leur fils Gandalf ou toute autre chose, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Alors, si vous voulez m'écouter raconter des histoires qui font peur, il y a toutes les nuits qui sont animées par Boulet à la nuit originale, toutes les heures, pardon, de Boulet à la nuit originale, où vous m'entendrez parler comme ça et raconter des trucs. Et sinon, si vous êtes curieux de la vulgarisation juridique avec des questions à la con mais du contenu de qualité, vous pouvez écouter Besoin de rien, envie de droit, pour lequel il y a 17 épisodes chez Binge Audio. Voilà.
Et c'est un très bon jeu de mots.
Oui, on aime beaucoup.
Se permettre.
Il a été trouvé avec le producteur un soir, on avait peut-être un peu bu.
Moi, j'avais pensé à tir sur mon droit, mais peut-être c'était un peu trop vulgaire, quoi.
C'était pas mal aussi.
Yes.
Ça aurait été très drôle, tir sur mon droit, prout. Tu vois, le truc, il va beaucoup trop loin. Bref. Alt 236, mon cher ami, où est-ce qu'on peut se retrouver ?
Eh bien, on peut se retrouver soit sur YouTube, où j'ai ma chaîne. Et si en ce moment je poste pas beaucoup, c'est parce que je prépare plein de trucs trop cool. Donc ça s'appelle Alt 236 et c'est sur YouTube. Et j'écris aussi des chroniques dans Canard PC une fois par mois sur le jeu vidéo et ses frontières un peu étranges. Donc voilà.
J'en mets, et ben, tous les liens en description, comme d'habitude.
Parfait. Et merci à vous, c'était trop cool.
Ouais, c'était hyper sympa.
Merci encore, merci d'être venu.
Merci beaucoup.
Tom, où est-ce qu'on se retrouve, nous ?
Nous, on se retrouve dans 2 semaines. On reprend le rythme un peu plus traditionnel. Il y aura 2 épisodes, tu nous écoutais régulièrement, qui vont sortir en 2 semaines. C'était que voilà, on voulait vraiment faire un épisode, cet épisode-là, pour Halloween. Du coup, voilà, on est content qu'il ait pu se faire. Et du coup, un nouvel épisode dans 2 semaines.
Et on reprendra sûrement des voix un peu plus normales.
Un peu plus normales.
Parce que là, on est un peu très posé, hein, finalement.
Voilà, c'est, vous êtes bien sûr sur Suave FM, la radio. merci beaucoup, merci à nous avoir écoutés. On se retrouvera dans 2 semaines. On se quitte en chanson comme d'habitude. 3, 4.
Simply the best. Down, 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 down.